incroyable.
Absolument incroyable.
C'est incroyable. Regardez ça. Allons-y bien. Nous sommes à la radio.
Jordan Dupuis débarque avec ses gros dossiers d'actualité.
Moi, je vais vous faire ça un petit peu plus léger.
Ah, mais c'est toujours très agréable. Et là, tu vas nous faire un suivi de quelque chose que tu as abordé la semaine dernière. Ce fameux Tanguy, là, il y a du développement dans l'histoire.
On a des nouvelles de Tanguy.
On a des nouvelles de ce Michael Rotondo. Vous vous souvenez, la semaine dernière, je vous ai parlé de ce gars-là de 31 ans qui collait chez ses parents et qu'un juge de la région New York a statué, ben, tu dois partir de la maison. Là, c'est fini, là, siphonner les fonds publics de tes parents.
Mais c'est ses parents qui voulaient que ça son camp.
Ses parents voulaient que Michael Rotondo quitte. Et, ben, savez-vous quoi? Il est déménagé!
Bravo. Ouais! Good times, come on!
Donc, Michael Rotondo.
Mais en même temps, là, c'est pas un jugement banal. Parce que, tu sais, ça s'arrête quand la responsabilité parentale?
Ben, exact. Et surtout que Michael Rotondo ne faisait absolument rien pour contribuer aux tâches, ne serait-ce que domestiques. Il partageait pas le bill de rien. Il y avait clairement un problème de relation familiale parce que, bon, il se parlait plus depuis des mois, comme vous vous souvenez, mais. Comment ça s'est fait, en fait? Ce qui est fascinant, c'est qu'il n'a même pas, avec toute cette saga-là, pris l'initiative de se trouver un appartement. Monsieur Rotondo a déménagé à l'aide d'une camionnette et des sacs de poubelle, un bon vieux classique de Tanguy qui quitte. Il a lancé sur le perron les clés de la maison avec ses parents qui regardaient par la fenêtre. Évidemment, il y avait plein de médias qui étaient sur place. Et ben, il s'est pris une chambre sur Airbnb pour une semaine.
C'est quand même désolant.
On sait pas ce qu'il va revenir.
Il va revenir chez ses parents.
C'est quand même désolant, tout ça. C'est épouvantable qu'on assiste à des affaires comme celle-là, tu sais. Puis que ce soit public, puis qu'il y ait des médias qui assistent au... C'est d'une tristesse.
C'est d'une tristesse. Mais je pense que ce qui est moins triste, c'est que les parents vont célébrer au champagne.
Ah non, ils doivent être contents qu'il ait enfin sacré son camp. Tu nous parles aussi d'IKEA ce matin. J'aime beaucoup l'angle que tu vas prendre parce que moi, je fais partie de ces gens-là qui sont incapables d'acheter uniquement ce qu'ils allaient acheter chez IKEA puis qu'ils repartent avec plein d'affaires dont ils n'avaient pas besoin.
Ben, ça nous est tous déjà arrivé, Catherine. Et comme
moi, je suis une spécialiste là-dedans. Ben, incroyable. Dépense beaucoup trop d'argent.
Puis là, moi, là, quand on arrive aux caisses, j'ai hâte de voir ce qu'ils ont mis aux côtés des caisses.
Mais ça ne s'arrête jamais.
Puis des affaires qu'on n'avait pas pensé acheter.
Puis là, quand tu as terminé
de
payer...
Il y a une boîte de brioche.
Il y a une boîte de brioche, des cornets, des hot dogs.
Ça n'a pas de sens. Mais il y a quelque chose qui fait en sorte qu'on n'est pas capable de se contenter de ce qu'on avait sur notre liste au IKEA et ça nous est tous déjà arrivé. On vient de finir de souper, on arrive au IKEA, on se ramasse avec une assiette de boulettes, on s'en va là pour une tablette, on se ramasse avec un meuble de télé ou la fameuse bibliothèque Billy qui finit en vente de garage 2 ans plus tard. Donc, il y a vraiment quelque chose qui fonctionne dans l'attrait marketing de IKEA, dans ce parcours qu'on vous propose.
Est-ce qu'on l'explique?
On l'explique et c'est un article du New York Post qui a décidé de décortiquer ça un peu et je trouve ça vraiment intéressant parce que là, dans un mois, c'est les déménagements, hein? Donc, les gens commencent déjà à aller au IKEA. Ils passent leur dimanche-là. Sûrement, déjà, après l'émission, il y en a qui vont être en route ou peut-être qui nous écoutent déjà s'en allant.
Non, mais ils ne pourront jamais se rendre, là.
Si vous êtes
si
sur
c'est
la...
le IKEA de Montréal, oubliez ça. Oubliez. Là, vous auriez dû partir mercredi.
Hey, imagine-tu le stress que tu t'en vas vivre au IKEA parce que tu es brûlé après. C'est comme si tu avais fait un marathon.
Non, mais il ne faut pas aller là la fin de semaine, Jordan. Faut pas aller, non. À moins qu'on ait des horaires tellement serrés. Là,
ouais, à moins qu'on soit masochiste.
Ah, même si c'est ouvert, je pense à tous les soirs de la semaine.
Je sais.
Donc, il y a façon d'aller là. Pas
exact.
Mais on me dit que le meilleur temps, c'est 1 heure avant la fermeture en semaine.
J'ai fait ça souvent, moi. Et souvent, j'entre par à l'envers. Quand j'ai vraiment quelque chose à aller chercher...
J'entre par la sortie.
Oui, je fais le trajet à l'envers, j'en sors.
Puis le temps que les gens finissent de passer aux caisses, t'as déjà une demi-heure de plus. C'est vrai, on est
wise. Mais est-ce qu'ils ont trouvé une façon
exact.
De faire?
Donc, le New York Post a statué sur des trucs des infaillibles qu'IKEA utilise pour vous faire acheter plus et c'est quand même intéressant. Donc, évidemment, le parcours. Hein? Le parcours, tu te sens obligé de suivre ce courant-là, cette marée-là qui avance et ce qui explique pourquoi les raccourcis sont si complexes à trouver dans le IKEA. Parce qu'il y a des raccourcis pour descendre, ne serait-ce qu'au marché ou aux caisses, mais c'est toujours très complexe. Donc,
il n'y a pas d'autres commerces qui ont des parcours comme ça?
Pas du tout. Donc, on vous amène dans ce chemin-là, on vous invite à le suivre et si vous voulez en sortir, en fait, c'est un peu comme le labyrinthe de Pan, là, bonne chance, ces raccourcis-là sont très difficiles à trouver et vous devez souvent demander l'aide. Donc, les gens abandonnent et disent, bon, ben on va continuer.
Souvent, tu prends le raccourci puis ça, tu reviens à la même place où tu étais.
C'est comme Mario Bros.
Oui, ça exactement. Rend fou.
Donc, fait que l'objet sur lequel tu avais hésité, ben, tu le prends.
Oui, finalement. Mais tu vois,
c'est dans les prochains points. Donc, ce qu'ils disent, c'est que, bon, en fait, bon, le parcours et Brad Klontz, qui est un psychologue de la finance, qui a sorti plusieurs livres aux États-Unis, dit « Le plus long que IKEA peut vous garder dans le magasin, le plus vous êtes susceptible d'acheter des produits dont vous n'avez pas besoin. » Parce que vous savez que si vous prenez pas ce produit-là, de retourner derrière le chercher, c'est presque mission impossible. Donc, vous aimez mieux le mettre dans votre panier tout de suite, puis rendu à la caisse de prendre vos décisions.
Et tu veux pas marcher à contre-courant le samedi?
Non, ben non,
parce
voyons.
Que là, écoute, il y a des risques d'accident
c'est
énormes.
C'est comme le tour de l'île en 18 roues sur
oui,
la piste cyclable.
Oui.
C'est impossible. Ensuite, le même principe en fait qu'une course pour enfants. Donc, c'est ça. Donc, parce que leur stratégie, c'est qu'à tant de mètres, ils mettent des items qui ne se retrouvaient pas dans le catalogue. Donc, souvent, les gens qui vont au IKEA ont feuilleté le catalogue, ont déjà des items qu'ils ont présélectionnés. Et lorsque vous faites ce fameux parcours-là, à tant de pieds, il y a des étalages avec des produits qui ne se retrouvaient pas dans le catalogue. Donc, vous avez un sentiment de surprise, sentiment d'avoir trouvé quelque chose, un espèce de petit coco à Pâques, et finalement, ce qui vous amène à aller davantage et davantage plus loin.
Ah
et
ouais.
Souvent même, il y a des produits qui ne se retrouvent pas sur le site web. Ensuite, une histoire est racontée. C'est important. On commence souvent par la famille. Donc, ils ont déjà un lien, les trucs pour enfants, etc. Donc,
et c'est du marketing
de haut niveau. Ensuite, on y va avec des appartements étudiants. Donc, des petits trucs étudiants, les célibataires, les familles, etc. Ensuite, les prix qui sont difficiles à trouver. Souvent, les prix, de comprendre l'assemblage des prix, on fait, bon, on tombe en amour avec le produit avant de tomber en amour avec le prix. Ensuite, ils font affaire avec des designers et non des étalagistes. Donc, ça fait une différence parce qu'il y a toute une ambiance. Le prix des repas est boulette. Donc, c'est déjà, ça attire les gens pour manger. Là. Et je termine avec quelques chiffres intéressants. Là. IKEA, c'est 58 milliards de dollars par année de vente. En 2017, ils ont statué pour 936 millions de visiteurs. Et au Canada seulement, ils ont fait en 2017 2,17 milliards de dollars. C'est une augmentation de 5,9% par année.
Moi, j'ai un truc infaillible si vous ne voulez pas dépenser chez IKEA.
C'est quoi?
Allez-y avec mon chum.
Ah oui? Ça se
marche. Pierre-Yves McSween.
Il marche en avant tout le temps. J'ai pas le temps de m'arrêter pour acheter
ben,
des...
honnêtement, loue-le la fin de semaine, ton
mais,
chum, parce
ouais,
que...
Il m'évite d'avoir 52 boîtes de chandelles qui ne serviront jamais.
Ben,
merci beaucoup, Jordan Dupuis.
Ça fait plaisir, Marie-Hélène.
Merci.